Il est un des noms mythiques dans la création des jeux vidéo parce qu'il a créé un titre au succès international dans les années 80, Prince of Persia, mais aussi parce qu'il a adapté une technologie issue du cinéma, le rotoscoping, sur un des tout premiers micros familiaux 8 bits pour son jeu Karateka. À l'époque, Jordan Mechner est un jeune auteur de jeux vidéo, doué et passionné. Et de nos jours, il est aussi auteur de bande dessinée, scénariste pour Hollywood, réalisateur de documentaires et auteur d'ouvrages qui relatent son expérience, mais aussi l'histoire de sa famille. Une famille qui a dû continuellement être en mouvement, ce qui explique peut-être pourquoi il s'est toujours attaché à la fluidité de l'animation de ses personnages. Radio FMR s'est associé avec la librairie de bande dessinée Terre de Légende, les cinémas Utopia Toulouse-Bordeaux-Rouge, l'association de préservation informatique Silicium et l'association de professionnels du jeu vidéo Toulouse Game Dev pour lancer une invitation à Jordan Mechner pour une rencontre publique, une séance de dédicace suivie d'une séance carte blanche cinéma. Nous recevons donc en public depuis le hall du cinéma Utopia Bordeaux-Rouge, Jordan Mechner, créateur de jeux donc Karateka, Prince of Persia et The Last Express, cinéaste, réalisateur de documentaires, auteur de bandes dessinées dont son autobiographie familiale, Replay, Mémoire d'une famille, sortie chez Delcourt. L'interview est en trois parties et sera co-animée par René Speranza, président de l'association Silicium, moi-même Daskritch pour l'émission CPU et Infoset Grunt pour l'émission Crossover. CPU, carré, petit, utile. Monsieur René Speranza, président de l'association Silicium, je vous laisse y aller.
Bonjour. Bonjour Jordan.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Ah, ça me fait plaisir. D'abord parce que, comme toi, j'ai eu un ordinateur Apple dans ma jeunesse et donc du coup j'étais très sensible à ton parcours avec cette merveilleuse machine et ce que tu as pu en tirer comme jeu de qualité. Donc déjà, félicitations. Donc ma première question, c'était de savoir comment ça t'est venu ce choix d'ordinateur au début. Qu'est-ce que autour de toi il y avait d'autres machines et pourquoi l'Apple est pas un Tandy?
Bon, je pense que les premiers ordinateurs que j'ai connus étaient le TRS-80 et le Commodore PET. J'étais au lycée, donc c'était tout nouveau pour moi. Avant, j'étais pas vraiment technique. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt dans le dessin. Je m'intéressais beaucoup au dessin animé. Mais donc, pour moi, ces ordinateurs étaient intéressants. La programmation m'a attiré comme juste... comme c'était mathématique, c'était élégant. Mais le premier ordinateur que j'ai vu qui avait des couleurs, c'était l'Apple II.
Oui.
C'était un ami au lycée qui en avait chez lui. Et pour moi, c'était magique. Il avait un ordinateur chez lui. Ça voulait dire qu'il pouvait programmer quand il voulait. Il pouvait aussi jouer des jeux chez lui. Qui, à l'époque, pour moi, c'est jouer des jeux... c'était un truc d'arcade. Donc, il fallait apporter des rouleaux, des pièces.
Oui.
Et
est-ce que ces machines, par rapport à l'arcade, apportaient quand même un plus au niveau des jeux? Il y avait des possibilités qui étaient bien plus larges. Il y avait du RPG, des jeux d'aventure. Est-ce que ça t'a attiré, ça?
Bon, les premiers jeux d'ordinateur dont je me souviens, c'était des jeux en basique. Donc, c'était des choses hyper simples.
Genre Lemonade et tout ça?
Oui. Je me souviens, il y avait un jour Star Trek, mais c'était en texte.
Oui.
Donc il y avait des chiffres ou des lettres qui représentaient les vaisseaux spatiaux.
Ouais.
Mais même avant ces premiers ordinateurs, il y avait des jeux en terminal télétype. Il n'y avait même pas d'écran.
Oui, c'est vrai.
Donc les jeux d'arcade, c'était autre chose. Là, il y avait, je me souviens, quand Space Invaders est arrivé, j'avais environ 14 ans. Et là, c'était pour la première fois, un jeu d'arcade était vraiment fun. Parce que les jeux avant, comme Tank War, Lunar Lander, c'était intéressant. Un écran de télévision interactive, oui, c'était une nouveauté. Mais c'était pas plus fun que Pinball. Mais Space Invaders, c'était vraiment addictif.
Ah oui.
Et donc, quand j'ai vu que sur l'Apple II, il y avait une version de Space Invaders qui était presque identique au jeu d'arcade, il s'appelait Apple Invader. C'était l'un des premiers jeux sur l'Apple II que j'avais vu avec résolution
haute def.
Et c'était pas écrit en basique, c'était écrit dans le langage de la machine. Donc là, c'était le coup de foudre.
Ah oui, je comprends.
Tombé complètement
c'est
dedans.
Vrai que sur PET ou sur Tandy, les graphismes, c'était un peu plus carré.
Ouais. Oui, c'était difficile d'apprendre aussi à l'époque parce que c'était un peu un mystère. Ouais. On pouvait trouver des livres comment programmer en basique. On pouvait copier des programmes en basique.
Oui.
Des livres, des magazines, mais pour l'assembleur, pour les ouais. langages de machine.
Ça, c'était non. justement ouais. ma question suivante, c'est que tes jeux, t'as été obligé de les faire en assembleur. Et alors, comment ça s'est passé le passage du basique à l'assembleur? Parce que de mon expérience, c'était quand même un autre univers, une autre façon de penser.
Oui, il y avait personne qui le comprenait. Donc, évidemment, à l'école, on pouvait pas encore. Et il n'y avait pas de cours de programmation.
T'avais acheté des livres?
Oh, même pas. C'était plutôt des magazines. Des magazines comme Creative Computing, Soft Talk aux États-Unis. Je sais pas ce que vous aviez en France à l'époque.
On avait du retard, hein. On va pas se mentir. En France, on était en retard quand même. On est toujours un peu retardé, mais on essaie de compenser. Et effectivement, en France, il a fallu attendre facilement 3 ans avant que ça arrive. D'ailleurs, on arrivait à avoir des photocopies de Softalk ou de Creative Computing, mais c'était difficile, quoi. Et c'est vrai que c'était là. Et pareil pour les bouquins, quoi. On avait du mal à les trouver. On trouvait que des photocopies où il y avait des zones, on savait même pas ce qu'il y avait marqué. Et, malgré ça, on s'acharnait, quoi, parce qu'on aimait ça. Et c'était quand même difficile. Moi, je me rappelle, ce qui était compliqué, c'était le drive et le graphisme, parce que c'était torturé, quand même.
Ouais, les magazines étaient très importantes à l'époque.
Ouais, ouais.
Et il y avait des brebis, des petits articles qui expliqueraient un truc, et puis je dis, ok, maintenant je comprends à moitié, je comprends à trois quarts ce truc. Donc, on pouvait aussi regarder les jeux qu'on achetait.
Oui.
Ou qu'on piratait.
Parfois.
À l'époque. Donc on pouvait faire un reset. Au milieu d'un jeu, donc on pourrait rentrer dans la machine pour regarder, essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça fait, et si je change ça, est-ce que ça fonctionne encore?
Ouais.
Donc c'était un peu comme avec les machines, il fallait juste jouer avec.
Ah ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que tu as des titres sur l'Apple qui t'ont plu particulièrement à l'époque, que tu as retenu à travers toutes ces années, comme étant majeur?
Mais oui, mais là c'était... pour moi, au lycée, au début, c'était Breakout.
Ouais, Breakout.
Qui venait en cassette avec l'ordinateur.
Ouais, en basse résolution.
Oui, c'est ça. Mais en couleur.
Et en couleur, ouais.
Puis il y avait Apple Invaders.
Ouais.
Les autres jeux qui sont arrivés, il y avait Apple Galaxian.
Ouais.
L'un des premiers jeux de Broderbund.
Ouais.
Qui était programmé au Japon. Ils avaient importé.
Ouais. Il était bien fait, celui-là.
Ah oui, Tony Suzuki. Bon, mais tous les programmeurs à l'époque, évidemment, pour moi, c'était que des noms sur l'écran. J'avais aucune idée quel âge il avait, où ils habitaient.
Ouais, c'est sûr, c'est mystérieux.
Oui. Alors, en tout cas, il y avait Bill Budge. Donc, lui était une sorte de Jedi de programmation. Il faisait toujours des choses qui semblaient impossibles. Raster Blaster.
Ouais. Et tu l'as connu? Tu le connais, je sais pas si...
Bon, tous ces gens-là, je les croisais bien des décennies plus tard.
Oui, c'est ça, c'est logique, ouais.
C'était seulement les programmeurs de Broderbund que j'ai connus. Bon, quelques ans plus tard, à l'époque où Broderbund a publié mon premier jeu, Karateka, là j'ai rencontré Dan Gorlin, Doug Smith et d'autres programmeurs chez Broderbund.
Oui, Shoplifter, un chef-d'œuvre.
Oui, Choplifter, oui, en 82, et ça c'est un jeu qui m'a beaucoup inspiré
aussi.
Ça
m'a marqué, ça. La façon de gérer la cinématique, les personnages, tout, pour un jeu relativement simple, qui est un Defender, en fait, où c'est un hélicoptère qui doit sauver des otages qui courent, sans, faut pas les écraser quand on atterrit.
Oui, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné chez Choplifter. D'abord, que les otages qu'il fallait sauver, c'était pas que des symboles sur un écran, mais ils faisaient des gestes.
Ouais.
Donc, ça donne une sorte de rapport humain. On avait envie de leur sauver et de pas leur écraser.
Oui, c'est ça. Alors ça, tu vois, c'est ma question suivante. C'était par rapport à Karateka. Donc, on arrive, t'as bien digéré l'assembleur, je suppose, à ce moment-là, quand tu commences à travailler sur Karateka. Dans ton livre, tu parles notamment d'un jeu que t'avais fait avant, qui était un espèce de Asteroids, revu que tu as revisité avec des choses différentes, mais qui reste un jeu, je dirais, dans le concept. C'est-à-dire, c'est des boules, il n'y a pas de réalité. Donc, tu as choisi de passer d'un jeu qui était purement conceptuel, c'est ça, à un jeu avec une narration.
Ouais.
Comment ça s'est passé? Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas trop, ça, quand même.
Oui, c'est vrai. Et quand tu dis le livre, tu parles de la BD, de Ripley,
ouais.
Mémoire d'une famille, oui. Parce que là, oui, là, je parle un peu du moment au lycée, au début de la fac, où je passais mon temps à créer des jeux qui étaient plutôt des jeux d'arcade.
Ouais.
Donc, j'essayais d'adapter ces jeux d'arcade sur l'Apple II comme Space Invaders avait déjà fait.
Mm.
Mais j'étais toujours un peu en retard.
Et oui.
Et évidemment, parce que la technologie et la mode dans les jeux vidéo avançaient très vite. Et c'était vraiment le moment, ouais, où j'ai vu Choplifter. Que je me suis dit, bon, mais j'étais bête. J'ai passé tout ce temps à essayer de faire semblant des jeux d'arcade, mais finalement, la raison pour laquelle tous les jeux d'arcade ont trois vies
c'est l'argent.
Oui, c'était pour créer ce mécanisme d'addiction, pour qu'on mette autant de pièces possibles.
Oui. Mais sur l'ordi, c'est différent.
Oui, à l'époque. Maintenant, malheureusement, on est revenu à...
Oula.
on parle pas d'aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, on vendait des jeux sur floppy disk. Et puis, Choplifter, c'était pas une expérience d'addiction. C'était plus une histoire qui avait un fin. Oui, ouais. il y avait que 64 otages. Et si on jouait un jeu parfait, si on avait sauvé tous les 64, c'était fini. Et c'était pas game over à la fin, les mots affiché sur l'écran, il disait the end.
Oui, avec le drapeau.
Ouais, c'est ça qui m'a impressionné.
Ah oui.
Là, j'ai compris qu'un jeu pouvait aussi raconter une histoire. Et c'était l'une des inspirations importantes pour mon prochain jeu qui était Karateka.
Ouais. Ce qui est étonnant aussi, c'est comme le disait Xavier au début, tu as fait du rotoscoping, donc tu as numérisé les gestes humains pour les mettre dans l'ordi, et c'est ce qui a donné le style du jeu et qui est mémorable aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rappelle de Karateka parce que c'est le premier à avoir à peu près, hein, à avoir proposé une fluidité et un réalisme dans le mouvement. Alors, comme c'était neuf que t'as eu cette idée, je voulais savoir comment ça t'est venu, quoi. Parce que ça n'existait pas dans le jeu vidéo, donc tu t'es inspiré sûrement du dessin animé, je suppose.
Oui, la rotoscopie, c'était une méthode
classique.
Oui, mais à l'époque, c'était juste que je voulais faire d'animation fluide. Je l'imaginais bien, je le voyais bien dans mon imagination, mais quand j'ai essayé de dessiner des sprites et de les faire bouger, c'était pas du tout ce que je voulais.
Ouais.
C'était je me suis rendu compte qu'il fallait, il faudrait être un animateur un professionnel comme chez Disney pour faire des animations comme ça. Et moi, j'avais pas cette formation-là.
Ah oui.
Donc, c'était d'abord mon père qui m'avait fait une suggestion de filmer quelqu'un pour compter les cases, pour voir au moins le bon rythme, parce que c'était surtout la vitesse dans l'animation qui c'était difficile à répliquer. Même si j'arrivais à bien dessiner une personne, un karatéka, et que OK, c'est un bon dessin, ça a l'air bien. Dès que je mettais deux ou trois ou quatre cases animées, ça perdait toute illusion de vie. Donc, j'ai filmé un karatéka, donc c'était le prof de karaté du coin.
Tu faisais du karaté à l'époque?
Oui, il y avait ma mère et ma sœur qui prenait des cours de karaté.
Oula, ça ne devait pas rigoler chez vous.
Oui, oui. Et même moi, j'en ai pris. J'avais un ceinture blanc, jaune au maximum.
Ouais.
Mais oui, j'ai demandé au prof que je lui filme avec une caméra Super 8 à l'époque. Donc, je lui ai demandé de faire tous les mouvements nécessaires pour le jeu. Et après, quand j'ai projeté ces films sur un Moviola, je me suis dit, mais compter les cases, je peux même faire mieux, je peux tracer les silhouettes de chaque case. Et puis, il fallait trouver un moyen de l'importer à l'ordinateur, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'input vidéo dans un ordinateur, il n'y avait pas de tablette graphique, il n'y avait pas de Photoshop, il n'y avait rien. Donc, il fallait transférer cette image en pixels. Mais donc, c'était laborieux, ça a pris
à la main,
du temps.
Tu faisais ça.
C'était à la main, oui. Ça,
obligé, il y avait
mais, rien. Et ça a pris, je sais pas, une... D'abord qu'il fallait créer les outils pour le faire et après de tracer toutes les cases. Mais au bout de quelques semaines de travail, quand j'ai fait marcher cette première séquence, j'ai vu que ça fonctionnait, que la rotoscopie crée une illusion de vie qui était mieux que j'aurais pu dessiner à la main. Donc c'était une technique incroyable que je l'ai gardée pour la création de Karateka et évidemment pour mes autres jeux après.
Ceci dit, tu vois, au-delà de la rotoscopie pure, là où je trouve que ton travail est très fort, c'est que tu as réussi à adapter ton propos aux contraintes de la machine, parce que la machine quand même, elle est très, les contraintes de proximité de couleur, les pixels, c'est limité. Et toi, malgré ça, t'arrives à faire, à donner des personnages ont des sentiments. Quand la fille, elle pleure, tout ça, le faucon, tous ces trucs-là, ça fonctionne, quoi. Donc, t'as dû synthétiser, en fait, la réalité pour l'adapter à la machine.
Oui, il fallait opérer dans les limites, la limitation du graphisme de l'époque. Donc, il y avait très peu de couleurs.
Oui.
Les pixels, très peu de pixels. Avec le son et la musique, on pouvait faire des choses, mais il fallait arrêter l'action sur l'écran pendant qu'on jouait quelques notes de mélodie.
Un truc à la fois.
Oui, soit l'un, soit l'autre. On ne pouvait pas avoir l'animation et le son à la fois. Il fallait tout mettre en scène un peu comme si on faisait un film muet.
Oui.
Donc, penser en termes de compositions fortes, des
c'est
gestes.
C'est vrai que ça fait film muet,
Ouais, à l'époque, pendant que je créais Karateka, je prenais aussi cours à la fac dans plein de sujets. Je m'intéressais beaucoup au cinéma et j'étais en train de redécouvrir le cinéma des années 30, 40, des films muets, évidemment avant ma naissance.
Ouais.
Et c'était très intéressant pour moi de voir les premiers films muets et voir qu'il fallait inventer tout.
Et oui, ils ont tout inventé, oui.
Le close-up, le cross-cutting... juste l'idée de bouger la caméra, qu'est-ce que ça fait? Ça n'existait pas au début. Et je me suis rendu compte que dans les jeux vidéo, on était aussi au tout début d'un nouveau médium. Il y avait beaucoup d'astuces qu'ils avaient utilisées pour les films muets qui pourraient être adaptées aux jeux vidéo. Et le cross-cutting était juste le fait de... Donc, Karateka, c'est une série de combats, en gros, de gauche à droite. Donc, quand on lâche la manette, quand on fait rien... J'ai fait un cut, donc on voit le prochain ennemi qui est en train de courir vers nous. Et si on fait rien, on continue à faire l'alternation entre les deux. Et ça, c'était un truc...
issu du cinéma,
Mais qu'il fallait tester.
Oui.
Parce que j'imagine que la première fois que quelqu'un a fait un cross-cutting dans un film muet, on s'est posé la question, mais est-ce que ce sera pas trop...
Est-ce que ça va être compréhensible?
Trop déroutant pour l'audience qu'on voit l'héros et du coup, on le voit plus. Il est disparu.
Ouais.
Donc, il fallait que l'audience s'habitue. Dans le jeu vidéo, on se posait la même question.
Ouais.
Ce sera pas trop embêtant pour le joueur qui est en train de contrôler l'héros et du coup, il disparaît de l'écran et au lieu de ça, on voit quelqu'un d'autre, on sera pas... Mais finalement, il fallait le tester et
ça fonctionne.
Ça fonctionnait.
Oui, parce que c'est le même principe, en fait. Ouais. Donc, avant qu'on parle du jeu suivant, dont j'ai oublié le nom, là, tout à coup, je voulais juste dire que, pour les fans, Xavier a découvert un documentaire interactif sur Karateka, The Making of Karateka, et que c'est excellent, avec des interviews.
Il est sorti cet été, c'est vrai que
en août, c'est Digital Eclipse. Oui, ils ont fait un travail incroyable.
Ah, c'est excellent, ça, oui. Donc, on le trouve sur GOG.
Sur pratiquement toutes les plateformes. Hein. Il est sur Xbox,
Switch, PlayStation,
après, sur les,
Steam.
Donc, je conseille ça aux auditeurs. C'est vraiment
Il faut dire aussi qu'ils ont mis toutes les versions de Karateka en émulation. Et on peut aussi choisir l'écran qu'on veut, si on veut un écran en couleur ou vert. C'est vraiment...
Il y a aussi les jeux précédents. Il y a aussi effectivement le...
Oui, ils ont même mis dans la création de Karateka les jeux inédits que j'avais fait à la fac avant Karateka. Donc c'est bien pour moi parce que j'étais assez déçu à l'époque quand mon jeu Death Bounce a été annulé. Mais maintenant, 40 ans plus tard, il a été édité.
Alors moi, ce qui m'a intéressé dans ce documentaire et qui est surprenant, c'est de voir le travail d'éditeur de Broad & Boone. C'est-à-dire que vraiment, il vous prennent par la main et vous disent ça va être un processus qui va être long, mais on fait ça aussi pour vous aider à sortir le meilleur jeu. C'est très impressionnant de voir dans les courriers qui sont inclus dans ce documentaire comment en fait il y a un vrai travail d'accompagnement. Vous qui maintenant éditez de la bande dessinée en France avec des structures comme Delcourt qui contactaient d'autres auteurs de bande dessinée, vous retrouvez justement un petit peu cet esprit d'édition à cette échelle-là?
Oui, je pense que le métier d'éditeur n'a pas guère changé au cours des années. Évidemment les jeux vidéo la BD ou des romans sont des médias différents, je pense que le boulot de l'éditeur, c'est d'abord de croire à un auteur, à un projet, de voir le potentiel, et puis de l'accompagner, de donner des conseils, des directions, peut-être que comme un éditeur, normalement, est censé connaître toute la concurrence, tous les jeux ou tous les livres qui existent, il pourrait montrer à l'auteur d'autres choses qui pourraient aider, qui pourraient donner de l'inspiration. C'est un peu ce que Doug Carlston, le chef et l'éditeur de Broderbund, c'est ce qu'il a fait quand il m'a envoyé Choplifter. Il a fait juste pour me montrer comment c'était leur nouveau jeu. Il m'a même envoyé un joystick pour le jouer parce que à l'époque, tous mes jeux étaient pour des contrôles clavier parce que j'avais pas de joystick. Et il a dit bon, maintenant le marché a évolué, il y a plein de jeux sont jouables que avec le joystick, donc c'est possible. Donc d'abord tu devrais mettre des contrôles joystick dans ton jeu et tu pourrais te sentir libre même d'exiger comme avec Choplifter on pouvait pas le jouer avec le clavier. Donc il m'a envoyé le joystick pour que je puisse le jouer.
Et qu'est-ce que vous a envoyé Lewis Trondheim pour que vous mettiez à l'édition de votre journal autobiographique?
Ah oui, si on parle de mes BD actuelles, de Ripley, oui, Lewis Trondheim, c'est...
Le directeur de collection de Shampoing.
De Shampoing, et aussi, c'est pas seulement un éditeur, c'est un grand auteur de BD lui-même. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est un très bon éditeur. C'est parce qu'il, étant auteur lui-même, il n'essaie pas de trop contrôler ou de trop pousser l'auteur dans une direction particulière, c'est plus juste de donner ses retours et de laisser à l'auteur l'espace de trouver son chemin.
Alors, on peut continuer donc avec Prince of Persia. Alors, je la fais chronologique.
Oui, là, on était en train de faire des sauts dans le temps.
Oui, mais c'est bien aussi. Ouais.
Comme dans Ripley.
Du moment qu'on arrive à s'y retrouver à la fin. Donc, Prince of Persia, c'est 1985. Tu te dis, bon, je vais faire un nouveau jeu et tu vas mettre 4 ans pour le sortir. Est-ce que tu t'es pas senti un peu seul, c'est-à-dire même si ta famille t'a aidé pour créer un jeu à un moment où ça devient compliqué de faire ça tout seul comme ça se faisait au début, quoi?
Le travail en équipe n'existait vraiment pas encore à l'époque et on parlait pas de développeur de jeux vidéo, on disait plutôt programmeur.
Oui.
Donc en tant que programmeur, normalement j'étais censé aussi faire le graphisme, faire le son, la musique, l'animation, même ce qui s'appelle maintenant la production. J'étais aussi producteur et éditeur, mais ce métier n'existait pas encore. Le métier de game designer n'existait pas. Un programmeur devrait aussi faire le game design. Donc, j'avais de la chance d'être entouré par des gens super. D'abord, chez moi, à la maison, j'avais mes parents, mon frère et nos amis, mes sœurs, qui ont de temps en temps... de façon intermittente des spectacles, ils sont consentis d'être que je les filme pour la rotoscopie. Pour Karateka, il y avait mon père et ma sœur qui étaient que j'ai rotoscopié pour l'animation. Pour Prince of Persia, c'était mon frère qui avait 15 ans à l'époque. Mon père a composé la musique pour mes jeux, mais plus que ça, que sont des contributions concrètes qu'on peut citer. J'ai toujours demandé aux amis, tout le monde qui passait dans la maison, et quand j'étais à la fac, aux amis de l'université, que juste, hey, regarde ça, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais.
Et prends la manette, joue. Et comme ça, j'ai du feedback constant, et souvent, des gens ont proposé des choses qui étaient importantes.
Bah oui.
Donc, quand je suis passé de ce milieu personnel, familial, au milieu professionnel chez Broderbund, où j'étais entouré par d'autres programmeurs, d'autres créateurs des jeux, là, oui, c'est, on peut dire que c'était un autre niveau parce que d'autres auteurs m'ont pu proposer des astuces, des techniques que j'ignorais à l'époque. Mais pour la question de qu'est-ce que c'est que, qu'un bon jeu, est-ce que c'est fun ou pas, ça c'était un peu... et même aujourd'hui, c'est un, toujours un mystère. Un peu.
Tant mieux.
Oui, il n'y a aucun éditeur, même si on verse des centaines de millions d'euros ou de dollars dans un projet, on ne peut pas garantir que ce sera un jeu qui sera un plaisir de jouer et que ça fera carton parce que tous les joueurs seront enchantés.
Eh oui.
Ça n'existe pas. C'est toujours cette magie de... l'inconnu de tous les arts créatifs.
Ouais. Pour finir avec Prince of Persia, donc qui a été un maxi succès. Beaucoup ont dit c'est dommage parce que la plateforme que tu avais choisie, c'était l'Apple II, que tu devais maîtriser un maximum. Elle était un peu datée, surtout quand le jeu est sorti. Mais ma question, c'était par rapport aux autres plateformes qui ont accueilli le jeu. Il y en a eu toutes celles qui existaient à peu près à l'époque. Je voulais savoir si tu avais eu un droit de regard sur ces projets, si tu avais participé plus ou moins, et s'il y en avait qui étaient moins bien.
En tant que programmeur, j'ai fait que l'Apple II.
Oui.
Donc, j'ai jamais appris à programmer dans d'autres langues. Je suis pas passé au PC. Oui, on peut dire que l'Apple II était déjà un vieux plateforme à l'époque. Mais quand j'ai commencé Prince of Persia en 85, l'Apple II était déjà courant. Il y avait Karateka qui était sorti juste un an auparavant. Et donc, je pensais que l'Apple II, c'était encore la meilleure plateforme pour les jeux. Ah, quand j'ai fini Prince of Persia 4 ans plus tard, c'était plus le cas.
Ah oui,
c'était... Là, c'était un peu tard pour sortir un jeu sur Apple II. Mais le problème, c'est que au début, je savais pas que ça me prendrait 4 ans.
Ah oui.
À chaque moment, pendant le développement de Prince of Persia, si tu m'avais demandé, j'aurais dit, je serais fini d'ici 6 mois.
Eh oui. Et c'est le problème, ouais.
Ouais. Et à un certain moment, je me suis dit, oui, je sais que c'est un peu tard, mais le jeu Apple II, c'est presque fini. Donc, si je recommence de zéro sur un nouveau ordinateur, ça me prendrait encore 2 ans juste pour me mettre au niveau, pour vraiment commencer de créer le jeu. Et là, ce sera plus efficace de le sortir sur Apple.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est logique, ouais.
Et finalement, les portages de Prince of Persia, chaque portage à l'époque, c'était son propre truc. Donc, c'est pas comme aujourd'hui où un éditeur a une stratégie globale pour la sortie d'un jeu dans tous les pays, dans toutes les plateformes, que ce soit simultané ou décalé. Non, c'était pas. Donc, Broderbund a sorti la version Apple II. Il y avait déjà une équipe chez Broderbund qui a commencé à faire la version PC. Et moi, j'avais aussi trouvé un studio indépendant à des anciens programmeurs de Broderbund qui ont commencé la version Mac. Mais eux, ils ont pris 3 ans.
Ah oui.
Et là encore, à chaque moment, ils pensaient qu'ils étaient à 4 ou 6 mois. Donc, il y avait des portages qui ont pris plus longtemps, qui étaient bien ou moins bien. Il y avait des versions faites à l'étranger. Toutes les versions console, c'était pas fait par Broderbund. C'était fait soit au Japon, soit en Europe, par d'autres éditeurs. Et donc, on voit, c'était le Wild West. Il y avait aucun rapport entre les versions entre les...
C'est différent, c'est pour ça que je te demandais ça, parce qu'il y a des trucs qui sont complètement... Tu te dis, ouais, c'est bizarre quand même, ça ressemble à pas super, super.
Même les boîtes, c'était... il n'y a pas les mêmes packaging, les mêmes illustrations.
Enfin, bon, après, il y a eu la version Prince of Persia 2, mais là, t'as pas participé, non?
Ah oui, Prince of Persia 2, mais là, c'était un peu différent.
Ouais.
Parce que ça, c'était avec l'équipe de Broderbund qui avait fait le portage PC. Donc, tout le monde voulait faire une suite, mais moi, je voulais pas rester encore 4 ans dans la parc industriel en Californie. J'avais envie d'écrire des scénarios, de faire des films, de voyager.
Ouais, oui.
Mais ce que j'ai fait, j'ai écrit une Bible. Donc, ça veut dire l'histoire du jeu. J'ai fait des storyboards. J'ai essayé de tout faire pour définir ce jeu de Prince of Persia 2. Et je l'ai donné à l'équipe. L'idée, c'est que il y avait, et déjà, c'était une équipe. Ça c'était nouveau. Il y avait donc un programmeur. Il y avait des artistes, des animateurs. Il y avait un vrai compositeur. Et il y avait Tom Rettig qui s'occupait du son, de tous les bruits. Donc, là, ils étaient des employés chez Brederbund, donc c'était comme une petite studio. Mm. Et moi, j'ai fait un peu le travail de réalisateur, mais à distance. C'est ça qui était un peu compliqué parce que je leur ai donné ces bibles et puis je me suis déménagé en France. C'est là où j'ai passé un an à Paris pour la première fois, c'était en 92. Donc j'ai fait des allers-retours à San Francisco juste pour regarder le progrès du projet. Et le seul truc que j'ai fait à moi-même avec à la main, à l'ancienne, c'était la création des niveaux.
Ah oui.
Bon, on était un peu d'accord sur quels éléments seraient possibles dans ces niveaux, tous les mouvements, les pièges, etc., les ennemis. Et on a créé une sorte d'éditeur de niveaux, comme j'avais fait pour Prince of Persia 1. Donc là, à distance, j'ai créé les niveaux de Prince of Persia 2, qui d'ailleurs, tout le monde m'a dit depuis que c'était trop difficile.
J'ai entendu ça. Alors, si tu veux, on peut continuer avec un autre jeu dont certains disent qu'il est difficile. Donc, c'est celui que tu as fait après, c'est The Last Express. Pour décrire aux auditeurs, c'est un jeu d'aventure point and click, avec il y a de la rotoscopie aussi, avec des personnages, et c'est dans un esprit... Alors moi j'avais noté... bon, c'est historique quand même, dans un contexte historique du début du siècle dernier. Un peu film noir, un peu Agatha Christie, parce que quand même, l'Orient Express, tout ça.
On peut même dire que c'était un peu inspiré par Casablanca, oui. Certains films de Warner Brothers.
Oui, c'est ça, voilà. C'est tout ce mélange, ça fait un truc sympa. Ah, donc, point and click, c'était très à la mode à cette époque-là. T'as choisi ça pourquoi? Pourquoi un point and click? Et pourquoi ce thème?
Alors, c'était en 92-93... que j'ai avec Tommy Pierce, une collègue, une amie. Elle était là pendant toute la création de Prince of Persia et on avait envie de faire un jeu ensemble. Et donc, on a coécrit ce scénario. L'idée, c'était en gros que tout le jeu se déroule sur un train. Un train, c'est fermé, donc on peut avoir une certaine casting des personnages. On peut pas sortir de cette...
C'est pratique.
Oui, c'est pratique, mais à la fois, ça bouge. Donc, au lieu, il y avait beaucoup de jeux d'aventure qui se déroulaient dans une maison ou quoi que ce soit. Mais donc, l'idée de faire un jeu sur un train qui part de Paris et qui arrive 3 jours après à Constantinople, juste avant l'aube de la Première Guerre mondiale en 1914, ça... nous paraissait un cadre très intéressant pour un jeu parce que c'est dynamique, mais
c'est contraint.
Et aussi, c'était une façon de parler d'un moment dans l'histoire où le monde est en train de changer.
Ouais.
Parce que quand le train part de Paris, l'Europe est encore en paix et deux jours après, c'est la guerre. Donc, tout change encore de cet voyage. Et c'est une histoire d'espionnage, d'espions, de trafic d'armes.
Oui, comme on aime. Il y a tous les ingrédients.
Oui, un objet un peu mythique, genre Indiana Jones.
Ouais.
Je peux dire que ce projet avait une inspiration assez directe des BD européennes aussi. Parce que cette année que j'ai passée à Paris... Pendant la création de Prince of Persia 2, j'avais découvert la BD européenne. Donc, Hugo Pratt, Skaiten, Bilal, Tardy, je connaissais pas du tout, enfant, à New York, ça n'existait pas encore en traduction. J'étais plus Mad Magazine quand j'étais enfant.
Très bon choix aussi.
Ah oui, aussi super. Mais donc, quand j'ai lu les histoires de Corto Maltese, je pense que c'est pas trop difficile de voir le lien, l'inspiration. On peut même dire que The Last Express était une sorte de BD européenne interactive en dessin animé. Et le point and click, c'était un moyen de raconter une histoire plus complexe avec plus de personnages pour un jeu comme Karateka ou Prince of Persia qui sont plus des jeux d'action. Il faut que l'histoire soit très simple juste pour servir comme cadre pour l'action. C'est l'action qui est complexe, avec des pièges, etc. Mais l'idée de sauver la princesse, qu'il y a un méchant, faut que cette partie-là soit simple. Mais avec Last Express, je voulais que l'histoire, que les personnages soient riches et qu'il y a chercher une subtilité dans les jeux d'acteurs, dans les dialogues. Et là, pour ça, le point and click...
C'était idéal.
C'était idéal, oui.
D'ailleurs, il y a un revival du point and click, je trouve, ces dernières années. C'est devenu un genre qui a été un peu délaissé il y a 7 ou 8 ans, et maintenant, je trouve que ça revient. Ouais. Et c'est tant mieux.
Oui, mais malheureusement, si on parle du marché, je pense que mon timing n'était pas très bien pour Last Express.
Oui, c'est arrivé à la fin.
C'est un peu comme l'Apple II avec Prince of Persia. Parce que au moment où j'ai commencé The Last Express en 91, 92, oui, le point and click était
ouais, à l'apogée.
Et ouais. Puis il y avait Myst qui a fait un carton incroyable.
Je sais pas, je me suis endormi.
Mais c'était qu'une fois. Ça a surpris tout le monde. Mm. Et finalement, les gens comme moi qui se disaient, ah oui, maintenant le point and click deviendra un grand genre de jeux vidéo. On va vendre des millions d'exemplaires. On se trompait. Ouais. Il y avait qu'un Myst et tous les autres jeux d'aventure de l'époque, même s'ils sont un peu cultes maintenant, ils sont pas vendus avec les chiffres des jeux d'action. Ouais. Et c'était plus la chose la plus importante qui s'est passée cette année-là, c'était l'arrivée du 3D avec des jeux comme Wolfenstein 3D et puis
Doom.
Et puis Doom, évidemment, et le passage en 3D et puis la création de l'Internet. C'est ça qui avait établi la direction à des jeux vidéo grand public. Donc les point and click ne sont pas devenus un genre grand public.
Oui, c'est vrai.
Mais on adore encore.
Oui, oui. Ça revient parce que maintenant, je pense que les choses se tassent au niveau de l'évolution. Et puis, c'est un style qu'on retrouve dans pas mal de petits jeux, notamment d'auteurs. Et ça, c'est tant mieux. Enfin bon.
Oui, c'est un genre très riche.
Oui, c'est pour potentiel. La narration, c'est quand même bien. Et toi, je sais que tu apprécies la narration dans le jeu vidéo. Donc là, au moins, c'est un média pratique, quoi. Voilà, donc pour conclure, j'avais juste envie de parler des sables du temps, comme on dit en français. C'est le revival de Prince of Persia, donc il revient en 2003. Tu changes de niveau avec un triple A et tout ça, là. Donc ça a dû changer ta vie, ça aussi, non?
Ah oui, mais chronologiquement, c'était le jeu que j'ai fait juste après The Last Express. Et là, mais cette fois, c'était autre chose parce que c'était Ubisoft, une boîte française qui avait monté un studio à Montréal, qui m'avait invité à faire un reboot de Prince of Persia. C'était en 2001, 2002 qu'on a commencé. Et Prince of Persia était déjà vieux. Donc, ça faisait 14 ans déjà. Ouais. Donc, on faisait un jeu pour une génération de joueurs console de PlayStation, Xbox, qui était nouveau. C'était le génération de PS2. Mm. Donc, pour les joueurs qui étaient trop jeunes de se souvenir du premier ou du deuxième Prince of Persia. Donc, il fallait vraiment faire...
Du neuf.
Oui. Et trouver une façon de recréer cette sensation de fluidité, d'action, d'immersion dans un jeu 3D que Broderbund avait déjà essayé avec un Prince of Persia 3D.
Oui.
Mais qui...
Je l'ai pas amené.
Il y a des gens qui apprécient. Moi, je suis pas arrivé à le jouer. Mon PC de l'époque n'était pas assez puissant.
Et PC n'est jamais assez puissant pour jouer.
Ouais, mais là, je pense qu'il y avait vraiment
un
souci technique. Mm. Dans le passage de 2D à 3D, au début, on a perdu la fluidité, cette capacité d'enchaîner les mouvements qu'on avait dans les anciens jeux 2D comme Prince of Persia. Donc, même Tomb Raider, qui a très bien fonctionné, c'était un peu statique. Si on le joue aujourd'hui, il y a...
C'est le problème de la 3D, ça vieillit mal.
Ouais. Mm. Donc, pour le Sands of Time, le défi était vraiment d'essayer de trouver une façon d'avoir un contrôle fluide, acrobatique, pour offrir un plaisir pareil au plaisir des anciens jeux 2D, mais aussi de mettre l'action vraiment en trois dimensions. Mm. Je pense que ça, c'était...
Ça, c'est réussi.
Ça, c'était l'un des déclics, l'idée que l'animation pourrait être verticale, pas seulement horizontale. Donc, de s'inspirer du parcours, d'avoir un héros qui pourrait courir sur les murs, etc., de faire des trucs un peu Cirque du Soleil. Mm. Je pense que c'est ça, c'était l'élément qui l'a rendu possible.
Ben, merci, Jordan.
Pour merci, moi, René, oui.
Ouais, avec plaisir.
Donc, on va parler de comment on est venu, en fait, d'un auteur de jeux vidéo à un participant à la production d'une franchise AAA de jeux vidéo. Justement, Si on parle maintenant de Prince of Persia, c'est pas seulement pour sa merveille graphique, son histoire, sa difficulté, mais aussi parce que il a connu plusieurs suites, qu'il est devenu une marque et qu'il a changé de société puisque Blood & Bone a été racheté par Ubisoft, si je me trompe. Comment justement vous êtes passé de Blood & Bone à Ubisoft? C'est vrai que entre temps, bon, il y avait The Last Express où vous aviez déjà pris du galon, si je puis dire, et travaillé avec une équipe.
Là, si on parle du Brother Bond de l'époque de Prince of Persia, du Brother Bond de l'époque de Last Express et puis d'Ubisoft à l'époque de Sands of Time, c'est vraiment trois chapitres différents dans l'histoire des jeux vidéo. Et pour moi, personnellement, trois expériences très différentes. Pour Prince of Persia, j'avais vraiment le statut d'auteur indépendant. Donc, c'était un jeu que j'ai créé. Même si Karateka, je l'avais créé à la fac ou chez moi, et pour Brother Bond, pour Prince of Persia, je me suis installé dans un bureau chez Brother Bond. C'était un peu le même fonctionnement. Donc ça veut dire, c'était à moi de faire le jeu et Brother Bond, c'était l'éditeur. Donc c'était l'accompagnement, l'encouragement finalement de le publier. Pour Last Express, là, c'était les années 90, c'était une équipe, mais là, cette fois, j'avais créé une société, j'ai créé un studio, donc il fallait d'abord trouver l'argent et puis embaucher des gens, donc créer une structure. Et là, je pense que j'ai créé des jeux tout seul. C'est pas une préparation complète pour devenir chef d'une boîte avec 60 employés. Je peux dire que les 4 ans de création de Last Express, la moitié de mes énergies se diriger vers le jeu, donc d'être game designer, auteur, réalisateur, etc. Et l'autre moitié à gérer la boîte. Et ça, c'était pas évident parce que c'était d'abord un jeu grand budget et puis qui a dépassé son budget et son planning plusieurs fois. Donc le gros suspense à chaque moment pendant la dernière année de développement, c'était est-ce qu'on aura l'argent pour continuer au-delà de la semaine prochaine. On a sorti de Last Express. Bon, c'était une expérience incroyable, une fois dans une vie. Et après, je me suis dit, OK, maintenant, je sais, j'ai plus envie d'être chef d'une entreprise. C'est juste, c'est pas ce que j'aime. J'aime bien créer des choses, que ce soit des jeux vidéo. J'aimais aussi écrire des scénarios, réaliser des films. Mais d'être le chef de tout, c'était pas pour moi. Donc, quand Ubisoft m'a proposé de faire Sands of Time, là, c'était clair, ce serait un jeu Ubisoft. Mm. Donc, je ferais partie de l'équipe, mais ce serait Ubisoft qui s'occupe du financement, du gestion. S'il y avait un graphiste qu'il fallait remplacer, c'était pas mon souci. Moi, j'avais qu'une chose à penser, c'est de faire en sorte que ma contribution à l'équipe, au jeu, soit le mieux dont je suis capable. Et pour moi, c'était un soulagement incroyable juste d'avoir fini avec Last Express et de pouvoir travailler avec une super équipe sur un projet dont c'était pas moi qui était responsable pour s'assurer que ça allait sortir.
Donc, vous n'avez plus à gérer les ressources humaines, la partie financière.
Pas du tout.
Ça, voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que The Last Express, en plus, c'est un jeu avec de la motion capture où, en fait, il y a du film qui est numérisé. En plus, c'est énormément de dialogues parlés. Donc, ça veut dire énormément de séances d'enregistrement de voix dans de multiples langues. Donc, je suppose que ça devait être absolument explosif pour vous, justement, à gérer tous ces postes et à trouver les personnes à qui déléguer et l'ensemble du suivi.
Enfin, Last Express, c'était une super préparation pour le travail que j'ai fait sur Sands of Time. Mais à l'époque, pour moi, c'était une façon de mettre ensemble mes deux grands amours, les deux métiers qui me fascinaient depuis petit, c'est-à-dire les jeux vidéo et le cinéma. Donc, comme The Last Express, c'était presque un film dessin animé interactif. Il y avait un tournage de quelques semaines, il y avait un casting avec des costumes, on faisait vraiment les choses pour le tourner en rotoscopie et puis l'enregistrement des voix. Donc, cet côté-là m'intéressait beaucoup. Mm. Et oui, c'était plus compliqué que ce qu'on a fait pour Sands of Time. Il y avait d'autres défis parce que là, comme c'était sur console, c'était un jeu en 3D, real time, et il y avait ce petit détail de la dague qui pourrait renverser le temps. Donc, beaucoup de choses qu'on faisait pour la première fois. Mais la partie cinématographique, c'était relativement simple par rapport au Last Express. Mm. Il y avait une histoire simple, il y avait des petites cutscenes. Et ce qui était sympa dans Sands of Time, c'était le dialogue du voix off du prince qui parle. Et là, c'était un truc carrément inspiré par des films noirs hollywoodiens où il y a un héros qui raconte en voix off pendant qu'on voit sur l'écran les aventures qu'il a vécues. Et on sait que ça va finir mal. Mmh. C'est juste qu'on a transposé en Perse au 9e siècle.
Et justement, un jeu que l'on dit triple A, donc avec un énorme budget de production, c'est énormément de temps aussi pour la production en elle-même. Et des fois, on tombe dans le production hell. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est que le production hell?
Bon, je pense que chacun qui a vécu ce qui s'appelle un production hell raconterait une histoire unique et différente. Donc, je pense qu'il n'y a pas un seul production hell. C'est pour chaque projet, c'est unique. Il y a un truc qui finalement qu'on n'avait pas bien anticipé. Mm. On dit que dans la production de Jaws, le film de Spielberg, c'était le requin.
Oui, les dents de la mer, hein, Jaws.
Oui, qui fonctionnait pas. Donc leur enfer de production, c'était juste les jours qu'ils ont passé en attendant que ce truc mécanique fonctionne. Et je peux dire que pour Last Express, le production hell, c'était la création d'une modèle en 3D de l'intérieur du train. Parce que là, des choses qu'on avait dit, OK, oui, on fera ça, ça va prendre 2 mois et puis on continue. Finalement, on avait mal anticipé, c'était pas 2 mois, c'était plutôt 2 ans. Et là, il y avait des choses qui auraient été, on devrait déclencher, mais on pouvait pas encore parce qu'on attendait encore que le modèle soit fini. Et bon, sur Sands of Time, je pense que je dirais pas production hell. C'était une production. Bon, même si c'était un jeu triple A, par rapport aux productions triple A d'aujourd'hui, c'était une équipe pas si grande que ça. C'était même pas une cinquantaine de personnes. Et il y avait le rewind. C'était la grande avance technologique, mais c'était gagné. Les ingénieurs l'avaient résolu. Mm. Je pense que le plus difficile dans Sands of Time, c'était juste que c'était, on avait un temps court et pas un grand budget pour l'époque. Et si on avait eu 6 mois de plus, ça aurait été plus facile. Mais on était censé garder la date de sortie originale, même si le jeu était très ambitieux. Donc là, c'était juste le stress sur l'équipe d'arriver au niveau de qualité qu'on voulait dans ces contraintes de temps et de budget. Mmh.
Le passage chez Ubisoft, c'est aussi la production d'un film à grand spectacle dans l'univers du jeu que vous avez créé. C'est plutôt rare qu'un créateur de jeux vidéo soit impliqué dans ce type d'adaptation. C'était par contrat où les producteurs avaient vraiment besoin de votre regard, avaient dit c'est un élément motivant que le créateur soit dedans.
Ah là, pour le film Prince of Persia, ça revient de mon intérêt pour le cinéma depuis toujours. Donc même à l'époque où j'écrivais le Prince of Persia sur Apple II original, j'ai une des raisons pour lesquelles ce jeu n'était pas fini en 6 mois, c'était parce que j'avais pris 8 mois au milieu pour essayer de monter mon premier film, donc un scénario long métrage que j'avais écrit. Donc je voulais.
Waiting for Dark.
Non, c'est un scénario que personne n'a vu.
Ah, d'accord,
c'était
okay.
En 87, c'était un long métrage et c'était mon premier aventure à Hollywood. Il y avait Larry Turman, le producteur de de Lauréat, The Graduate,
oui. Mm-hmm.
Qui aimait bien le scénario, donc il voulait le produire. Il y avait Curtis Hanson, réalisateur qui a fait des grands films après, qui pendant un moment il était le réalisé. Donc j'étais passionné par ça. Oh oui, super. Mm-hmm. Ok, donc j'ai arrêté ce petit jeu d'ordinateur Apple II que j'étais en train de faire pour aller à Los Angeles et essayer de faire mon nouveau métier de scénariste. Au bout de 8 mois, le film n'était pas encore tourné. Je me suis dit bon, finalement là, ce jeu d'Apple II, au moins c'est dans mes mains. Je pourrais le finir. J'aurais pas besoin d'attendre. Donc, je suis retourné à Brotherbund et j'ai fini Prince of Persia. Maintenant, je peux dire, heureusement.
Donc finalement, le productionnel est plus compliqué dans le cinéma que dans le jeu vidéo.
Oui, ça, ça s'appelle Development Hell.
D'accord.
Et tout le monde connaît. Non, mais si on parle du film de Prince of Persia, là, c'était juste, ça faisait 20 ans que j'avais écrit des scénarios, j'avais fait des courts-métrages et ce documentaire à Chavez Ravine. Mais quand Sands of Time est sorti en jeu de console, je me suis dit que ça pourrait être aussi un film. Donc, j'ai pitché aux producteurs, notamment à Disney, à Jerry Bruckheimer, et ils étaient convaincus. Donc, c'était moi le premier scénariste du film. C'était un peu particulier parce que j'étais aussi le créateur du jeu vidéo dont le scénario a été adapté. Mais je pense que surtout pour Bruckheimer à l'époque, ça, c'était pas l'essentiel. Je pense qu'il voyait dans Prince of Persia une histoire un peu comme Pirates des Caraïbes, qui venait de sortir et avec lequel il avait eu un très grand succès. Et là, il s'est dit, Pirates des Caraïbes, c'était basé sur une expérience Disneyland qui avait pas d'histoire. Mm. Et donc maintenant, on lui proposait une histoire adaptée d'un jeu vidéo. Il connaissait rien des jeux vidéo. Mais il dit, okay, ça, c'est une moyen de faire un grand film univers, Mille et Une Nuits, comme une sorte de voleur de Bagdad ou Sindbad, mais avec la technologie de notre époque, de le rendre moderne pour des jeunes audiences. Et comme il venait de faire avec des films pirates, mm. avec Pirates des Caraïbes. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant Pirates des Caraïbes, pendant 30 ans, aucun film pirate a marché à Hollywood.
Ah oui, même le film pirate, oui, en 84, c'était cassé pirate. La gueule, oui.
Oui.
Oui, donc c'était un peu ça l'idée. Donc, le côté jeu vidéo, c'était pas très important, je pense, pour Disney et Bruckheimer. C'était plutôt le scénario, les personnages, cette idée d'une dague qui renversait le temps. Et donc, mon rôle dans le film, c'était surtout d'écrire cette première version du scénario. Et évidemment, j'étais pas le dernier scénariste. Il y en a quatre d'autres qui sont venus après moi. Donc, le film qu'on voit finalement, il y a des rapports avec ma version originale qu'on peut aussi... Si vous êtes curieux, vous pouvez trouver sur mon site internet le scénario original, ma version du film Prince of Persia. Mais qui d'abord, c'est pas la même histoire que celle que j'avais écrite pour le jeu. Mm. C'est deux médias différents.
Depuis une quinzaine d'années, il y a un retour à l'esthétique des jeux vidéo en 8 bits sur le graphisme, la musique, la simplicité, la difficulté aussi. Qu'est-ce qui, d'après vous, a motivé ce retour? Une nostalgie de ces jeux d'avant ou l'envie de revenir à des équipes de production plus petites et finalement de pouvoir sortir plus vite des jeux parce que on a beaucoup moins de contraintes?
Oh, je pense que les jeux pixel art qui font semblant d'être 8 bits, c'est un choix artistique. C'est comme si on faisait un jeu du style des anciens dessins animés Warner Brothers. C'est juste maintenant on a tous le souvenir des siècles des œuvres audiovisuelles donc on peut choisir librement. Et pour les gens qui se rappellent des anciens jeux 8 bits, c'est de la nostalgie. Pour les jeunes qui sont trop jeunes d'avoir connu ces jeux-là, c'est quand même une fascination avec des choses qui existaient avant leur naissance. Et c'est comme la mode des vêtements façon années 20. Ouais. Ça peut être très à la mode ou ça peut être nul. Ça dépend à quel moment on pose la question.
Tout à fait. On vous a proposé aujourd'hui dans ce magnifique cinéma, donc Utopia à Bordeaux Rouge, une séance carte blanche. Vous aviez le choix du film que l'on va projeter. Étonnamment, vous n'avez pas choisi un de vos propres documentaires, Waiting for Dark, qui a été tourné à Cuba, ou Chavez Ravine, a Los Angeles Story, sur l'histoire d'un village qui a été rasé pour y mettre un stade de baseball. Pourtant, ce dernier a été primé dans les festivals. Pourquoi vous n'avez pas choisi vos propres œuvres? C'était vraiment parce que vous vouliez un petit peu de distraction ou Humphrey Bogart et...
Là, il faut avouer que je n'avais même pas pensé à proposer mes propres documentaires. Mais d'abord, je ne sais même pas si Chavez Ravine existe en version française. Je pense que, comme c'était un petit film documentaire à l'époque... C'est bien possible qu'on n'a jamais fait une version sous-titrée en français, donc ce serait peut-être frustrant pour une partie de l'audience ici.
Et vous l'avez mis vous-même disponible sur YouTube, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra se pencher pour s'occuper de la traduction, s'il veut bien le faire.
Mais en tout cas, ce sera pas gênant de regarder à nouveau Casablanca, l'un de mes films préférés, et ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
L'un des 10 plus beaux films au monde, et d'ailleurs qui vient d'être remasterisé pour le centenaire de Warner.
Oh, ça tombe bien.
Ce sont les limites de l'Apple II qui vous ont fait créer les protagonistes de Prince of Persia, comme le double maléfique ou la petite souris. Ces contraintes techniques qui rendent créative, est-ce qu'elles vous manquent ou finalement, bien heureux de pas avoir à s'embêter avec seulement 6 couleurs par ligne et le manque d'un timer sur la carte mère?
Oh, c'est sûr qu'on ne manque jamais des contraintes technologiques ou financières. C'est juste qu'ils sont pas toujours dans le même endroit.
Bien évidemment. Il fait cette grunge, je te laisse discuter bande dessinée.
Merci d'être présent et surtout merci pour avoir dessiné Ripley, donc Mémoire d'une famille, où vous regroupez les histoires, les autobiographies de chacun de vos pères, grands-pères et de vous-même. Justement, votre famille semble avoir cette tradition de d'écrire des journaux intimes. Est-ce que vous savez à peu près quand c'est que ça a démarré?
Bon, si on parle de mémoire, parce qu'il y a une différence. Une mémoire, c'est quelque chose qu'on écrit avec du recul, quand on regarde le passé. Mm-hmm. Et un journal intime, c'est ce qu'on écrit sur place.
Oui.
Et normalement, sans l'intention de le montrer à personne. Mm. Donc moi, j'ai commencé par tenir un journal intime quand j'étais à la fac, donc pendant la création des karatéka, de mes premiers jeux. Et beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que ce journal que j'avais jamais imaginé montrer à personne pourrait quand même avoir de l'intérêt pour d'autres créateurs et pour des gens qui s'intéressent aux coulisses de la création des jeux vidéo. Donc, je l'ai édité en forme de livre avec la création de Prince of Persia et de Karateka. Mais mon grand-père, Adolf Mechner, qui était un médecin, quand il est passé à la retraite, en 78, à peu près au moment où j'ai eu mon premier Apple II, il a passé 3 ans à écrire une grande mémoire familiale.
D'accord.
Et là, il avait ramassé ses souvenirs, aussi des photos, des lettres, des documents de l'époque. Il a vraiment fait un récit de toute sa vie.
Mm-hmm.
Et ça, peut-être que dans une façon inconsciente, ce travail de témoignage est resté avec moi et j'ai ressenti un peu obligation serait trop fort, mais juste l'idée que je devrais un jour faire pareil, que je devrais, moi aussi, quand je serai vieux, je vais écrire mes mémoires comme papy, un peu comme ça.
Du coup, le format, donc c'était mémoire pour votre grand-père, pour votre père, ça a été aussi mémoire ou c'était journaux intimes? Non, ça a l'air d'être plutôt mémoire aussi.
Mon père, à un moment, il a écrit aussi un mémoire. Il a commencé avec une partie très définie, donc c'est-à-dire les 4 ans de son enfance où il était séparé de ses parents. Il était réfugié d'origine juive autrichien. La famille s'est enfuie de Vienne entre 1938 au moment de l'Anschluss nazi. Mmh. Il avait 7 ans, donc il est passé en France et avec l'idée que ses parents le mèneraient aux États-Unis.
Mmh.
À New York. C'était ça l'idée. Mais au lieu de ça, il a passé 3 ans dans la France occupée et en compagnie de sa jeune tante. Donc c'est ça, cette aventure-là qu'il avait écrit en forme de mémoire, mais aussi à l'oral. Parce qu'il y a la partie écrite, mais il y avait aussi les histoires, les brebis d'histoires que j'avais entendues pendant toute mon enfance, ma jeunesse, de mon père, mon grand-père, de ma tante, qui racontaient des choses que j'assemblais un peu dans ma tête, dans une idée de leurs aventures qui me semblaient incroyables. Juste, ils avaient vécu et survécu des choses fous en Europe dans le XXe siècle.
Justement, le fait dans Ripley, vous associez justement les mémoires de votre grand-père, les mémoires de votre père et vos journaux intimes. Justement, comment ce projet a germé? C'est-à-dire, au départ, vous vouliez juste publier vos journaux intimes ou vous avez intégré petit à petit les mémoires de vos parents?
J'avais déjà publié mes journaux dans le cadre de création des jeux. Mais là, j'avais l'idée de faire une BD qui pour raconter l'histoire, les aventures de mon père mm-hmm. et de mon grand-père, parce que j'étais fasciné par cette période et je me suis dit, mais c'est une histoire incroyable et c'est vrai. Et moi, j'ai accès à la documentation. C'était au moment où j'ai commencé à écrire des scénarios, des BD, de travailler avec des super dessinateurs. Je me suis dit, bon, ce serait un super BD. Mm. J'avais aussi l'idée de faire une BD autobiographique sur mes souvenirs de la création des jeux dans les années 80. Mais au début, je voyais pas du tout comme un seul livre.
D'accord.
Quand j'ai commencé, c'était il y a 4 ans à peu près. J'étais déjà à Montpellier. C'était au moment où ma mission de créer un nouveau jeu Prince of Persia dont je parle dans la BD était finie. Mm-hmm. Que je me suis dit, OK, maintenant, c'est le moment de faire cette BD. Comment je vais faire? Mm-hmm. Et au début, je me suis dit, OK, je ferai tome 1. Sera la vie de mon grand-père, tome 2, les aventures de mon père, tome 3, la création des jeux Apple II. Et j'ai essayé comme ça, mais ça n'a pas fonctionné. Finalement, j'ai fini par trouver la structure qu'on voit dans Replay, d'essayer de faire les 3 histoires en parallèle avec des sauts dans le temps dans un seul livre.
Bah, malgré les histoires difficiles qui sont expliquées dans Replay, justement, elle permet de ressentir un amour des Français. Quelle est votre affinité avec la France? Parlez sans crainte, on n'est pas chauvin.
Non.
Ah oui, bon, je vis en France depuis 7 ans. Mm-hmm. Et évidemment, il y avait toujours quelque chose dans la France qui m'a attiré. Et ça date des premiers voyages en 91, 92, mm-hmm. à l'époque de la création de Prince of Persia 2, Last Express. Donc, j'ai passé un an à Paris et je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours senti à l'aise. Mm-hmm. Même avant d'apprendre le français. J'avais la sensation d'être dans un milieu
familier.
Oui, familier. Il y avait quelque chose. Même les choses qui sont un peu bizarres en France me semblaient normales. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les Américains ou les Américains qui viennent en Europe. C'est peut-être que parce que ma famille avait d'origine européenne. Mm. Peut-être qu'il y avait quelque chose de la culture européenne qui est passé dans notre famille, même si je suis 100% américain, je suis né à New York, j'avais grandi à New York. Peut-être que le fait qu'on avait...
Est-ce que c'est le fait d'être dans la côte Est qui est très européenne pour l'Amérique? Est-ce que ça n'a pas aidé, justement?
Peut-être que parce que New York, c'est une ville, assez ancienne. Pour l'Amérique, c'est ancienne. C'est pas comme Los Angeles où on passe la vie en voiture. Il y a quand même des centres, mm-hmm. il y a un tramway, mais il y a un métro. Mais au-delà de ça, même à New York, notre famille était, comment dire? D'abord, il y a mon père qui parlait avec un petit accent étranger. Mm. Et puis, mon père et mon grand-père qui collectionnaient des papillons, qui jouaient des chansons de Schubert et chantaient en allemand autour du piano. Mm. Ça, même pour mes amis new-yorkais, c'était OK. Ton père, il vient d'où? Donc maintenant, je me rends compte. OK, oui, c'est une culture typique. C'est la culture qu'ils connaissaient à Vienne, Vienne du 20e siècle. Donc ça faisait partie de notre milieu familial. Donc c'est peut-être pourquoi quand je suis venu en France, et les dîners prennent des heures et on ouvre des bouteilles de vin et on va au café, on reste au café pendant des heures, on parle de toutes sortes de sujets. Il y avait un niveau génétique où ça me semblait naturel. Et je peux dire aussi, c'était peut-être que la façon de parler de l'Europe et de la France, parce que mon père avait passé 3 ans de son enfance. Il était réfugié, il était en danger de sa vie, malheureusement. Mais je pense que quand même pour lui, la France était... Il en parle d'une façon plutôt positive. Mmh. Il apprécie beaucoup la culture française, la cuisine, les villes. Et il parle français, il lit français. Je pense que tout ça est un peu
Bah justement, en étant en France, il y a des bandes dessinées qui vous plaisent, vu que l'offre est différente par rapport aux comics américains, par exemple.
Ah oui, et ça, c'est une révélation. Mm. Quand j'avais 27 ans, quand je suis venu en France, et j'ai découvert la BD européenne. Mm-hmm. Parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de grands auteurs ici qu'on connaît pas là-bas. Ouais. Oui, j'ai déjà parlé d'Hugo Pratt, mais il y a... Je pourrais parler pendant une heure des autres. Hein.
OK. Il y a donc cette BD Replay qui est autobiographique, mais vous avez également démarré une série historique qui s'appelle Liberté, et vous revenez justement sur cette relation qu'il y a entre la milice rebelle américaine et l'État royal français. Pourquoi avoir choisi la BD pour cette histoire ? Vous auriez pu faire un film ou un jeu vidéo ?
Ah oui. Quand j'ai découvert cette histoire de Beaumarchais, que l'auteur du mariage de Figaro, dramaturge parisien, avait aussi été marchand d'armes et il avait joué un rôle important pour armer les rebelles américaines pendant la guerre d'indépendance, j'étais étonné parce que personne connaît cette histoire. Peut-être qu'en France, je sais pas, mais c'est sûr qu'aux États-Unis, personne ne imagine que Beaumarchais était l'un des héros de la Révolution américaine. Et l'ami de Beaumarchais, Silas Dean, qui est aussi l'un des héros principaux de cette BD Liberté, il n'est pas connu du tout. Il n'y a aucun statut de lui. Mais par contre, le rôle joué par Silas Dean et Beaumarchais
est important,
essentiel.
Oui.
Ouais. Essentiel. Donc, je me suis dit, j'avais envie de raconter cette histoire. J'avais envie de raconter de façon que ce soit vrai. Que personne dirait, ah oui, mais c'était juste un truc romancé, inventé par faire une série Netflix. Mais c'est pas du tout passé comme ça.
Joli.
Parce que je trouvais les vrais événements tellement passionnants que ça suffit. Et il y a qu'un seul média capable de raconter une histoire qui saute entre deux continents. Il y a la guerre en Amérique. Il y a l'intrigue à Versailles, il y a les bateaux au port à Nantes, à Bordeaux et qui est sur le mer entre les deux, des batailles navales. Finalement, soit ce serait un film gros budget des centaines de millions, et c'est pas le genre d'histoire qu'on prendrait pour un film comme ça, surtout si on voulait garder cette fidélité historique sans inventer des choses hollywoodiennes. Il fallait que ce soit une BD. La BD est magique. On peut raconter des détails, des moments personnels, des moments intimes, à côté des grands événements historiques, des grandes batailles, avec des dessinateurs comme Étienne Leroux et Loïc Chevalier, qui c'est presque comme un film, c'est tellement cinématographique ce qu'ils dessinent.
Justement, comment vous avez rencontré Étienne Leroux et Loïc Chevalier, qui sont des dessinateurs, quand on regarde leur production, ce sont des dessinateurs spécialisés dans l'historique. Est-ce que vous connaissiez leur précédente production, que ce soit 14-18 ou les frères Rubinstein? Je vais arriver à le faire correctement. Rubinstein, merci. Est-ce que vous les connaissiez ou est-ce comment on les a rencontrés?
Oui, Étienne, c'est Olivier Vatine et Olivier Steinfatter, deux amis à Montpellier, c'est Louis Trondheim, mon autre éditeur pour Replay, qui m'a présenté Olivier et Olivier. Donc, j'avais proposé deux projets de scénario au même moment. C'était Liberté. Ouais. Et puis Monte Cristo, une version moderne du Comte Monte Cristo de Dumas que j'avais adapté à nos jours, donc à l'Amérique de post 11 septembre. Donc, on cherchait des dessinateurs pour les deux albums. Et finalement, pour Monte Cristo, c'était Mario Alberti, un dessinateur italien incroyable, et la Comics Bureau, la boîte d'Olivier Steinfatter à Montpellier, qu'il a édité, donc maintenant c'est chez Glénat. Et pour l'autre, c'était Étienne Leroux. Donc là, le casting d'un dessinateur, c'est un peu comme le casting d'un star pour un film. Donc on dit, ah oui, ce serait super que Tom Cruise joue le rôle principal. OK, on va le proposer. Et finalement, les dessinateurs comme les grands acteurs ont plein de propositions. Donc il faut un peu un coup de foudre. Il faut qu'on tombe un peu amoureux. Et là, j'ai eu une grande chance qu'Étienne avait lu l'histoire, qu'il aimait bien. Je l'ai rencontré pour la première fois lors d'un festival d'Angoulême en 2019. Après, je suis allé à Tours. J'ai rencontré son partenaire en dessin, Loïc, et puis ça a démarré, quoi.
Dans votre BD, justement, Ripley, votre fille fait une remarque très intéressante sur la différence entre les lycées américains et français. Et après, vous vous offusquez à raison sur une tentative de réécriture de l'histoire. Quelle est la différence de rapport qu'a un Américain avec l'histoire par rapport à un Européen?
Je pense que l'histoire qu'on apprend au lycée, dans n'importe quel pays, c'est compliqué. Je pense que c'est très difficile d'être prof d'histoire. Et d'abord, il y a ceux qui font bien le métier et ceux qui le font moins bien. Mais pour tous, ils font dans un cadre très restrictif, très difficile. L'histoire qu'on enseigne, il y a toujours d'un point de vue particulier. C'est une sorte de propagande nationale. Donc, on raconte l'histoire du point de vue de notre pays, juste pour apprendre aux enfants qu'est-ce que ça veut dire d'être citoyen de ce pays. Donc, en Amérique, on voit toute l'histoire du monde du point de vue de l'histoire des États-Unis. On commence avec l'arrivée de Christophe Colomb. Ce qui est un peu ridicule parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire des États-Unis. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et en France, bon, je suis pas français, vous savez mieux que moi, mais j'imagine que comme tous les autres pays, on apprend l'histoire de la France comme si c'était inévitable que la France existerait, que Paris serait la capitale, que les frontières seraient là et que français serait la langue que tout le monde parle. Astérix, les Gaulois, c'est un peu comme si on commence l'histoire des États-Unis avec Colomb. Donc, on a chacun notre histoire qu'on apprend dans l'école.
On appelle ça le roman national. C'est un terme qui est souvent utilisé.
Bon terme.
Le roman national. Mais
donc, ce sont deux romans différents.
Oui,
on peut dire.
Roman pour une nation. Donc, pour les États-Unis, pour la France, pour l'Allemagne et autres. Ok, donc c'est vraiment ce roman national qui prédomine sur les différentes histoires. Nous, on commence avec, c'est vrai, plutôt la Mésopotamie et autres. Vous commencez avec Christophe Colomb. Eh ben, il y a de l'écart là. Il y a quand même pas mal d'écart. Et vous, justement, vous l'intégrez dans vos jeux, dans Prince of Persia, ou c'est juste l'ambiance, on va dire, de
historique. J'ai toujours été fasciné par l'histoire et des récits, des aventures historiques. C'est peut-être que à cause de mon histoire familiale, la génération précédente a été touchée par l'histoire d'une façon assez directe. Quand ton gouvernement essaie de te tuer, ça on peut dire que c'est la façon la plus directe que la politique et l'histoire peut nous impacter. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui, je pense que j'ai l'impression que l'histoire, c'est pas quelque chose qui est passé il y a longtemps. C'est fini, c'est bien de l'étudier, mais maintenant on est passé de nouveau époque post-historique. Je pense que c'est pas ça l'histoire, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et on n'est pas tiré d'affaire. L'un des sujets de Ripley, et je pense que de tous mes BD aussi, mais je veux dire, c'est justement la façon où des individus,
l'histoire en mouvement, en fait.
Oui, que ce soit l'héros de Prince of Persia qui tombe amoureux d'une princesse, du coup il se retrouve jeté dans un donjon par un vizier méchant qui veut s'emparer du pouvoir du roi absent, ou que ce soit The Last Express ou Liberté qui parle de l'histoire d'une façon plus historique. Je pense que le sujet, c'est quand même les gens qui essaient de vivre ou de survivre face à un ennemi plus puissant et des grands dangers qui leur dépassent. Et je pense que c'est la base de toutes les récits d'aventure, mais c'est aussi c'est l'histoire.
Voilà, c'est l'histoire, ouais.
Jordan Mechner, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avant donc la séance de dédicace. Mais juste une question, quitte à être sur Toulouse, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous aimeriez visiter? Est-ce que ce serait le musée Georges Labitte et ses collections orientalistes? Est-ce que c'est le musée de la Résistance sur justement les événements qui sont passés durant l'occupation? Est-ce que c'est le musée Paul Dupuis ou le cloître des Jacobins, voire peut-être la collection de vieux micros dans le bunker de Silicium?
Ah, c'est une choix difficile. Et si je n'ai qu'une demi-journée, je pense
après,
que
après, vous n'êtes qu'à 2 heures de train.
Ah, je pense que c'est à vous que je devrais demander lequel vous conseillez.
je dirais déjà le musée de la Résistance, déjà. Pour votre histoire, pour voir également ce qu'il y a eu d'autre dans notre région, parce que ce musée est dédié aux événements qui ont eu lieu dans notre région, autant sur la résistance que...
Donc, après-midi, léger, rigolo...
Voilà, par contre, pour être un peu plus humoristique, là, on peut aller soit au musée Georges Labitte, qui, ma foi, a une...
Qui est fermé.
Et merci, qui est fermé. J'ai oublié.
pour sa statue qui ressemble à Jacques Chirac.
Non, pas que ça. Il y a pas mal de masques et autres. C'est vrai, de masques pas forcément meurtures, mais également des masques de comédie, de théâtre qui sont présents et qui sont pas mal. Justement, c'est un de ces masques qui ressemble à nos anciens présidents ici en France.
Mais ça peut tomber bien. J'aime bien faire des croquis dans des musées. Et les sculptures, les choses 3D comme les masques, c'est très marrant de dessiner.
Et là,
hélas,
il est fermé.
J'en ai oublié un sur la liste, le musée Saint-Raymond, qui est un musée historique au milieu des tombes gallo-romaines où ils font des reconstitutions historiques. Ils ont fait récemment d'ailleurs un concours d'épée avec des joueurs de grandeur nature. Donc il y avait des maîtres Jedi contre des chevaliers. Enfin, voilà, complètement barré.
Il faut savoir que le musée Saint-Raymond organise également des expositions où ils mettent en parallèle, leur collection, avec des amphores, avec des éléments, avec des éléments de pop culture, avec Wonder Woman par exemple, ou alors avec la série Age of Empires de Microsoft. Ils ont mis en face à face.
Ou Assassin's Creed, puisqu'on parle
Assassin's Creed Ubisoft, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal non plus.
Donc ce sera un choix difficile.
Ouais. Merci infiniment.
Merci bien, en tout cas.
Alors, merci
pour
à
votre
vous.
Disponibilité.
Un plaisir.